Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Pour ta grande bonté. Pour ton incroyable puissance. Pour ton caractère. Pour qui tu es. Tu es incroyable, Seigneur, et nous voulons venir à toi pour entendre ce que tu as à dire à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, dans nos vies, nous avons besoin de toi. Et ce matin, nous voulons venir à toi et entendre de ta part, Seigneur, aide-moi à annoncer et à dire les choses que tu veux que je dise maintenant. Merci pour ce livre de Zacharie. Nous croyons que tu l'as mis dans ta parole pour nous apprendre des choses, Seigneur. Merci. Amen. Alors, on peut se tourner dans Zacharie 6 ensemble. On va lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 6 de Zacharie. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu quatre chars sortir d'entre deux montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième des chevaux bruns tachetés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange m'a répondu, « Ce sont les quatre vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit « Allez parcourir la terre » et ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé et m'a dit « Regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du nord font reposer mon esprit sur le pays du nord. » La parole de l'Éternel m'a été adressée ensuite. Tu recevras les dons des exilés de Eldaï, de Tobia et de Yedaya, et tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Elem, Tobia et Yedaya et pour En, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous regardons donc ce chapitre avec deux parties distinctes, avec une vision de quatre chars. Et ensuite, une commande de la part de Dieu au prophète Zacharie avec des actions à prendre par rapport à ce grand prêtre Josué, comme un symbole. Et on arrive ici à la fin de la série de visions qui compose le début du livre de Zacharie pour l'instant. Pour se rappeler un petit peu, pour ceux qui ont peut-être manqué certains week-ends, on avait commencé, il y avait une introduction au livre où Zacharie parlait au peuple d'Israël en disant « Faites attention à ce que j'ai à vous dire, envoyez vos pères, ils ont pas écouté les prophètes et ils ont été déportés à Babylone, maintenant il y a encore des prophéties qui viennent de la part de Dieu, vous feriez bien d'écouter. » Et ensuite il commence une série de 8 visions. Et c'est intéressant de regarder ces visions et de voir aussi qu'il y a une sorte de symétrie. On commence les visions avec des chevaux et on a l'impression que c'est des éclaireurs, et on a ça fait un peu ça ressemble à la vision qu'on a aujourd'hui avec des chevaux de différentes couleurs, avec quatre chevaux, et ensuite on a une vision avec quatre cornes et quatre forgerons. Et l'idée de pays ou de nations qui ont servi, que Dieu a utilisé pour juger le peuple d'Israël, mais qu'ensuite Dieu juge lui-même aussi. Ensuite, on a une vision d'un cordeau et de quelqu'un qui mesure la ville de Jérusalem, et c'est une annonce prophétique de comment la ville de Jérusalem sera dans le futur, avec l'idée qu'elle sera grande et que ce sera quelque chose de pas possible à mesurer, en quelque sorte. Et ensuite, on a Josué, le grand prêtre. On a une vision de Josué, le grand prêtre, qui est sale et qui est revêtu de vêtements propres. On a vu ensuite la vision des deux oliviers et le chandelier d'or. Les deux oliviers qui représentaient Josué et Zorobabel. Et ensuite, la semaine dernière, la vision d'un rouleau volant et la vision d'une femme dans un panier qui est emportée à Babylone par deux femmes volantes. Et on arrive ici à la dernière vision avec ces quatre chars. Et ce sont des visions bizarres, ce sont des visions un petit peu difficiles à cerner. Si vous avez déjà lu le livre de Zacharie dans votre étude personnelle, ou vous essayez de lire la Bible en un an, souvent c'est des passages où on passe assez vite, et puis au final, le lendemain, on se souvient plus de rien. Donc c'est l'occasion, avec notre étude, évidemment, d'essayer de comprendre ces choses. Je vous parlais d'une symétrie. Alors dans ces visions, on pourrait dire qu'il y a les deux centrales, les deux oliviers et les deux chandeliers d'or, et Josué, le grand prêtre. C'est les deux visions centrales, qu'on a ensuite un rouleau volant et un cordeau pour mesurer Jérusalem, qui nous parle de Jérusalem dans le futur. Ensuite, on a cette femme emportée à Babylone, et les quatre cornes et les quatre forgerons, qui sont des visions qui concernent le jugement sur Israël. Et puis ensuite, on a ces chevaux dans la première vision, et puis ces quatre chars. Et donc, on a une espèce de symétrie, comme je vous disais, entre les visions. Évidemment, il faut un petit peu regarder et chercher à comprendre pour le voir, ça saute pas forcément aux yeux. Mais ces quatre chevaliers, ça nous paraît plus facilement. Et donc ça nous rappelle ce qu'on a vu au début du livre. Si vous voulez regarder avec moi, juste pour se rappeler, on peut se tourner dans Zacharie 1. Et à partir du verset 8, il dit « J'ai eu une vision pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. J'ai dit « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a dit « Je vais te montrer qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes a pris la parole et a dit « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ont dit « Nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille, en paix. » Alors ces chevaux, au début, annoncent, on a l'impression que ce sont des éclaireurs et qu'ils ont vu les choses en paix. Et à l'époque où on avait regardé ce passage, on s'était dit que c'était sans doute une certaine déception. Il y avait l'idée d'un jugement ou quelque chose que Dieu allait faire au peuple, l'idée d'une sorte de punition. On va regarder les couleurs des chevaux pour voir les idées qui y sont associées. Mais il y avait l'idée qu'il y avait peut-être une déception à l'annonce de cette vision, dans le sens où ces chevaux partent et parcourent la terre. Israël a le sentiment qu'ils aimeraient bien qu'ils soient vengés, que Dieu s'occupe des pays de leurs ennemis, et tout est en paix. Et ici, dans la vision des quatre chars, on a plus le sentiment que Dieu ici est en train d'agir et en train de s'occuper de ces pays justement et d'amener la punition ou la rétribution qu'il mérite de recevoir. Alors on peut regarder un petit peu en détail les éléments de cette vision. Donc Zacharie lève les yeux et il voit quatre chars sortir d'entre deux montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Et une première chose qu'on peut dire, c'est que les chars et les chevaux, c'est en général associé à la guerre ou à une action d'attaque. C'était nous de nos jours, peut-être les chevaux, c'est quelque chose de joli, quelque chose pour le loisir, ou éventuellement on a encore en tête peut-être l'idée de chevaux qui travaillent. Mais à cette époque-là, c'était vraiment fortement associé à l'idée de guerre et d'armée et d'attaque. Et donc on voit et en plus ici il y a les chevaux et il y a les chars qui évidemment étaient ici de la manière dont ils sont décrits, on a l'impression d'avoir des chars de guerre pour attaquer. Et ces quatre chars sortent d'entre deux montagnes de bronze. Et par rapport à ces choses-là, ces deux montagnes de bronze, on n'a pas forcément d'idées particulières sur ce que c'est de manière définitive. Il y a quelques personnes et on dit peut-être que c'est les deux montagnes significatives, le mont des Oliviers et Sion dans le pays d'Israël. Il y en a d'autres qui voient dans le bronze, il y a souvent l'idée de jugement. Certains se disent peut-être que c'est une sorte d'accumulation de jugement contre eux et que donc les chars viennent amener ce jugement. Mais donc il n'y a pas on n'est pas sûr de la signification exacte de ce que signifient ces deux montagnes, mais ces chars et ces chevaux sortent d'entre ces deux montagnes et on voit que il y avait un char avec des chevaux roux, un char avec des chevaux noirs, un char avec des chevaux blancs et un quatrième char avec des chevaux brun tachetés. Et ces couleurs, alors peut-être on peut regarder où vont les chars. Premièrement, on voit qu'au verset 4, Zacharie, qui toujours dans son esprit caractéristique, pose la question. Il dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'hésite pas à parler avec l'ange. Et l'ange lui répond : ce sont les quatre vents du ciel qui sortent de l'endroit où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Et ensuite, il dit, Zacharie nous dit, le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud et les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, allez parcourir la terre. Et ils ont parcouru la terre. Donc ils sortent et vont, on a l'impression, dans différentes directions. Les noirs vont vers les pays du nord, les blancs les suivent, et le char avec les chevaux bruns tachetés va vers les pays du sud, ou le pays du sud, et les chevaux roux demandent à parcourir toute la terre. Ici, on a l'impression que ce sont des choses qui arrivent rapidement, qui se déplacent avec vitesse. Ces chevaux et la description qui en est faite nous fait, pour ceux qui ont étudié récemment le livre de l'Apocalypse, ou si vous êtes si vous avez entendu parler des quatre chevaliers de l'Apocalypse ou des chevaux de l'Apocalypse, qui est quelque chose qui revient souvent dans la dans la culture générale, on va dire, on peut penser que ça s'approche de ces quatre chevaux de jugement qui sont décrits dans Apocalypse 6, ou éventuellement dans Apocalypse 7, il est question de quatre anges qui retiennent quatre vents aux quatre coins de la terre. Et donc il y a l'imagerie qui se rapproche. Il y en a d'autres qui pensent éventuellement que c'est peut-être les quatre empires qui sont décrits dans Daniel 2 et dans Daniel 7, à cause de certaines idées avec les couleurs. Mais évidemment, face à tout ça, on reste humble, on n'est pas 100% sûr. Il y a des parallèles, et évidemment, la description qui en est faite avec cette idée que ce sont les quatre vents du ciel qui sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans Apocalypse 7 avec les quatre anges et les quatre vents. Et en tout cas, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe sur toute la terre, qu'il y a des choses en particulier pour les pays du Nord et les pays du Sud, mais que c'est quelque chose qui affecte toute la terre. Et les couleurs en question ici, on a le roux ou le brun, voire parfois c'est traduit par rouge, et c'est l'idée de la guerre. Donc c'est l'idée de la guerre comme un jugement. Le noir, c'est l'idée de la famine et de la mort. Le blanc, c'est la victoire. Alors peut-être c'est le fait d'être, c'est un jugement dans le sens où on est défait, quelqu'un d'autre est vainqueur sur nous. Et les brins tachetés, c'est l'idée de divers maux ou peut-être la maladie. Donc ces couleurs sont souvent associées à ce genre de choses, et notamment dans Apocalypse. Et les pays du Nord, pour voir sur quoi Dieu s'attarde dans ses jugements, dans ses choses, on a les pays du Nord, c'était souvent les pays, alors c'était Babylone et les empires qui ont suivi, les Perses, etc. Mais le plus souvent, il y a l'idée de Babylone derrière le pays du Nord. Et donc il y a cette idée du jugement qui tombe sur Babylone et sur le pays du Nord, qui est le pays qui avait été utilisé par Dieu pour punir Israël. Et le pays au sud, on pense évidemment à l'Égypte. Le verset 7, il est dit, les brins sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre, et l'ange leur a dit, allez parcourir la terre, et ils ont parcouru la terre. Ici, il y a aussi des discussions sur les mots qui sont utilisés pour les brins. Mais suivant les traductions et suivant les interprétations, c'est l'idée que les quatre chars parcourent les quatre coins de la terre. Ici, dans notre traduction, on a plutôt le sentiment que ce sont que les brins. Mais il y a donc l'idée que ce jugement, que ces choses qui arrivent, que Dieu permet d'aller dans toute la terre, qu'il y a quelque chose de général, d'assez large, un jugement contre les ennemis d'Israël. Et on peut regarder toutes ces choses et on peut passer énormément de temps à essayer d'analyser, de trouver les petits points. Les théologiens, les chercheurs passent beaucoup de temps à discuter de ces choses-là, et c'est intéressant. Mais ça reste très, comme je disais, on doit rester humble, et y a beaucoup d'hypothèses, mais on n'en est pas sûr. Mais je pense que c'est important de regarder l'ange, le verset 8, l'ange m'a appelé et m'a dit, regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du Nord font reposer mon esprit sur le pays du Nord. Et je pense que c'est important parce que l'ange, ici, et où on pense que c'est peut-être peut-être Jésus dans une forme préincarnée qui est en train de parler lui-même avec Zacharie et qui attire son attention sur quelque chose, c'est qu'a priori, cette chose doit être la chose peut-être importante à retenir, à tirer de cette histoire. Mais il dit, regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du Nord font reposer mon esprit sur le pays du Nord. Et ici, la tournure et la phrase qu'il utilisait, font reposer mon esprit sur le pays. Quand je lis ça en ouverture, je me dis, c'est un peu... ça a l'air plutôt positif. Est-ce qu'ils sont, ça veut dire qu'ils sont tranquilles. On a l'impression d'une sorte de calme. Mais la tournure dans le texte original et suivant les traductions que vous avez, suivant les traductions que vous regardez, c'est plutôt l'idée que l'esprit ici, donc mon esprit, l'esprit de l'ange, mon esprit n'est pas tranquille, mais le cheval roux va aller et après mon pays va être tranquille concernant ce pays-là. Et dans d'autres traductions, il est question du fait que mon ardeur ou ma colère est calme, est calmée et satisfaite. Et donc l'idée en fait qui est annoncée ici, c'est que l'esprit ici de cet ange, l'esprit de Dieu est tranquille vis-à-vis de ce pays, sur ce pays, parce que ce pays a reçu ce qu'il méritait. Parce que la colère, l'ardeur de Dieu envers ce pays du Nord est satisfait. Et donc c'est l'idée que Dieu punit Babylone. Dieu n'était pas tranquille parce que Babylone n'était pas puni comme il le méritait, et une fois que Babylone reçoit ce qu'il doit recevoir, Dieu est tranquille, son esprit est en paix. Donc il y a cette idée de jugement. Moi j'ai choisi ce matin de pas trop m'attarder sur les parallèles qu'on peut avoir avec la fin des temps et notamment avec Apocalypse, les réflexions qu'on peut faire. Ici, c'est une étude aussi qu'on peut regarder, essayer de tirer des choses. Ici, c'est intéressant vis-à-vis de Zacharie parce que ils sont... C'est une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël. C'est une chose qu'il serait heureux d'entendre en quelque sorte. Parce qu'ils ont tellement souffert sous la main de Babylone, mais aussi parce que ça montre que Dieu, ils sont dans des circonstances difficiles, ils sont dans un moment où ils ont peut-être des doutes. Ceux qui sont revenus dans le pays avec les certains de ces exilés qui sont revenus dans le pays, qui ont commencé à rebâtir, qui essaient de se remettre en route, souffraient. On en a déjà parlé dans cette étude de Zacharie, mais c'était difficile. Ils avaient les peuples des pays qui avaient pris leur place, qui étaient opposés à eux. Ils avaient des gens qui venaient les attaquer pendant qu'ils travaillaient. Tout était détruit. Ils étaient peu nombreux. La terre avait été vraiment complètement détruite pour empêcher le fait qu'ils puissent se réinstaller. Et donc ils étaient découragés et pouvaient sans doute par moments se dire « Mais Dieu, est-ce que tu t'occupes vraiment de nous? Tu te souviens vraiment de ce qui nous est arrivé? Est-ce que tu... » Et beaucoup de questions comme ça. Et donc cette vision, ensemble avec les autres visions, devait être un encouragement et quelque chose pour leur donner de la force et les encourager à dire continuez à faire ce que je vous ai demandé de faire, à savoir de reconstruire le temple. Et cette vision leur rappelle que Dieu n'oublie pas, que Dieu va punir Babylone et va s'occuper de juger ceux qui sont opposés au peuple de Dieu, mais qui sont aussi, de manière indirecte, opposés à Dieu. Et cette dernière vision, donc des quatre chars, vient se termine et on a une sorte de petit bonus qui est avec le reste de ces visions à partir du verset 9, avec cette commande par rapport à Josué le grand prêtre. Donc on passe dans la deuxième partie de notre texte et on peut lire, pour se le remettre en tête, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu recevras les dons des exilés de Eldaï, de Tobia et de Yedaya, et tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. » C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Elem, Tobia et Yedaya et pour En, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Donc on a parlé de Josué le grand prêtre par rapport aux visions qu'il y a eu quelques chapitres avant, avec la vision de ce grand prêtre Josué qui était habillé de vêtements très sales et qui est revêtu de nouveaux vêtements propres pour servir Dieu. Et il était question de Josué dans la vision des deux oliviers qui alimentent cette lampe, ce chandelier, dans le chapitre 4. Oui, 4. Et ici, Dieu donne une parole, demande à Zacharie de faire quelque chose de manière très pratique et concrète. Donc on passe sur quelque chose d'un petit peu différent des visions. Mais il lui dit, il y a trois personnes, hein, ce Heldaya, Tobia et Yedaya, ils sont revenus de Babylone et ils ont amené des présents, ils ont amené des dons pour essayer d'aider, pour offrir à Dieu, pour aider avec des dons. Et ils sont chez un certain Josias, le fils de Sophonie. Et lui dit, tu vas chez ce personnage, Josias, prends ses dons d'argent et d'or et fais-en des couronnes et mets cette couronne sur la tête de Josué, le grand prêtre. Et je veux que tu fasses ça parce que ce sera une représentation d'un homme qui doit venir, le germe, qui lui va amener la vie, va construire le temple de l'Éternel et qui sera roi et prêtre en même temps. Et il lui dit à la fin, donc je veux que tu fasses ça concrètement, et après je veux que tu prennes cette couronne, après avoir fait cette chose en symbole, et je veux que tu le mettes dans le temple pour rappeler, pour que ce soit un rappel, et pour rappeler aussi la bonté de ces trois personnages, ces exilés, qui sont revenus avec ces dons, et pour un rappel aussi de par rapport au fils de Yotsadak qui les a hébergés. Alors c'est un passage, encore une fois, d'une richesse incroyable, parce que c'est un passage qui nous parle de manière presque explicite de Jésus. On a dit et redit que le livre de Zacharie est un livre avec des prophéties et des annonces par rapport à Jésus qui sont incroyables et qui sont magnifiques et qui sont des preuves irréfutables de la main de Dieu dans la rédaction de la Bible, parce que ce sont des annonces tellement précises et qui sont des prophéties dont on sait historiquement par des manuscrits qu'on a que ces choses ont été écrites des centaines d'années avant la venue de Jésus, et pas après. Et donc, ici, il commence avec cette histoire de couronne. Donc il y a ces personnages, Eldai, Tobia et Yedaya. Leur nom, Eldai, veut dire robuste ou fort. Tobia veut dire Dieu est bon. Yedaya veut dire Dieu sait. Certains commentateurs essaient d'y trouver une signification ou un sens. D'autres disent que c'est trop chercher des choses un peu farfelues et trop hypothétiques et que c'est sympa si on veut le faire, mais que c'est pas forcément des choses sur desquelles on peut tirer des conclusions concrètes. Mais moi, ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est le fait que ce sont des histoires qui sont ancrées dans une réalité historique. On a des visions folles, on a des femmes volantes avec des ailes de cigogne, on a des chars bizarres, on a des rouleaux gigantesques volants, et en même temps, il dit, ah oui, et puis après, il y a les trois, là, Eldai, Tobia et Yedaya. C'est comme s'il disait, oui, et au fait, les trois qui sont arrivés, là, Jean-Marc et Fred, là, ils habitent chez un tel. C'est une bascule assez incroyable aussi dans ce texte de se dire qu'on passe d'un truc, de ces visions incroyables, à quelque chose de tellement concret et où c'est complètement historique, quoi. Ce sont pas des personnages mythiques, ce sont pas des personnages mythologiques, c'est trois personnes, trois exilés juifs qui sont revenus de Babylone, qui avaient amené des dons et que Dieu va utiliser ici. Et il dit donc à Zacharie d'aller voir ces trois personnes qui restent dans la maison de Josias, fils de Sophonie, et il lui dit, prends l'argent et l'or qu'ils ont amené, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. La tournure ici et la manière dont il est parlé, parfois on se dit, mais moi en lisant le texte et suivant les traductions aussi, il y a un petit peu de discussion. On se dit, ça marche comment quand on met plusieurs couronnes? Est-ce que ça tient? On les empile? C'est comme si vous prenez cinq couronnes de gâteau des rois et vous essayez de vous les mettre les cinq sur la tête. C'est un petit peu compliqué. Mais le texte ici, je pense, quand on regarde, j'ai lu certains commentateurs qui disaient qu'il y avait l'idée qu'il faisait plusieurs cercles et qu'ensuite il les assemblait ensemble pour faire une couronne, mais qui était faite de différentes parties, on va dire. Donc c'est un petit peu moins compliqué, et c'est l'idée qu'il y a peut-être, avec les différents matériaux, il les laissait peut-être l'or et puis l'argent, il faisait pas des mélanges ou n'importe quoi. Et donc l'idée ici, c'est aussi l'idée d'une couronne, comment je pourrais dire, une couronne digne d'un roi, avec un travail d'orfèvrerie compliqué. C'est pas juste quelque chose de facile, c'est quelque chose de vraiment digne d'un roi et qui dans la manière dont elle est fabriquée signale cette idée de c'est quelque chose de magnifique fait pour un roi qui mérite une couronne magnifique. Et il lui dit donc de mettre cette couronne sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. Alors ici, on a peut-être, par rapport à cette vision, le point central. Dans l'Ancien Testament, l'idée qu'un prêtre puisse être roi ou qu'un roi puisse être prêtre, Dieu ne permettait pas ça au peuple d'Israël. Et donc ici, c'est une image un peu choquante. C'était pas quelque chose que Dieu voulait dans l'Ancien Testament. un roi qui est prêtre ou un prêtre qui est roi, c'était pas quelque chose qui était toléré. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le noter et aller regarder. Il y a un certain personnage dans l'Ancien Testament, dans je crois que c'est 2 Chroniques 26. C'est l'histoire d'un roi Ozias qui essaie d'aller. Il est roi, il est nommé roi, et il a un bon. A priori, c'était un bon roi qui faisait ce que Dieu voulait, qui était pas mal. Et à un moment, il se dit, je vais faire le prêtre moi, je vais faire les sacrifices, je vais me comporter comme un prêtre. Et là, c'est la fin pour lui. Et ça se passe vraiment très très mal. Il y a d'autres petites anecdotes, mais c'est un peu une idée qui, pour nous, peut-être peut sembler, si je vous le recontextualise d'une certaine manière, c'est l'idée de séparation des pouvoirs. C'est que on n'aime pas que le président puisse à la fois décider, faire les lois, les appliquer. C'est l'idée d'un peu d'un monarque absolu qui serait en même temps le prêtre et dirigerait le culte religieux. Ça arrive dans l'histoire de l'humanité parfois. C'est intéressant. La semaine dernière, je discutais avec les adolescents et on parlait de l'idée du Seigneur, le fait qu'on parle de Jésus comme étant notre Seigneur et de s'arrêter et de dire mais qu'est-ce que c'est un Seigneur ? Est-ce que vous vous souvenez de vos cours d'histoire quand vous étiez à l'école ? Le mot Seigneur est un mot qui vient avec avec des connotations et avec une histoire derrière. Et ça me fait penser ici aussi à l'idée de roi ou d'un grand prêtre. C'est des choses où nous, en tant que chrétiens, des fois, quand on lit l'Ancien Testament, la Bible, on passe assez rapidement dessus et moi, en tout cas, j'ai souvent, il faut que je m'arrête et que j'y repense vraiment. Je me disais, mais est-ce que, par exemple, est-ce que j'aimerais avoir un roi à la tête de la France qui ait les pleins pouvoirs dans notre pays actuellement, on se dit que c'est plutôt bien qu'on a réussi à s'échapper de cette chose-là. Au Moyen-Âge, d'une certaine manière, il y avait la domination absolue d'un grand prêtre avec le pape, on pourrait presque dire, qui dominait de manière... Le culte qui avait le culte et qui était en même temps un peu un roi politique sur les pays et ce sont de mauvaises choses et c'est une réflexion qui nous amène aussi à réfléchir sur la démocratie parce qu'on présente souvent la démocratie comme l'aboutissement ultime, comme le truc génial, et au final d'une certaine manière, la démocratie, c'est un aveu de l'imperfection de l'homme et du fait que l'homme est mauvais. Parce que qu'est-ce que c'est la démocratie ? C'est l'idée qu'on ne va pas laisser une personne seule décider parce que la personne seule qui décide, qui est mauvaise, va mal décider pour le reste des personnes. Si vous avez un bon roi... On a des exemples en tête dans nos livres d'histoire de bons rois. Et quand il y a des bons rois, même des histoires un peu mythologiques ou des choses, peut-être le roi Arthur ou l'histoire de, par exemple, de, comment il s'appelle, notre ami Robin des Bois, il y a l'idée que le bon roi est parti à la guerre et que malheureusement c'est son frère qui fait n'importe quoi et ils espèrent le retour du roi, du bon roi. Donc on a aussi quand même cette compréhension que si on a un bon roi, c'est une bonne chose. Mais que notre côté cynique et notre côté réaliste, c'est de nous dire, mais en fait, les hommes sont tellement mauvais qu'on ne veut pas qu'il y ait un roi qui ait tous les pouvoirs, on préfère autre chose. Et ça va un petit peu de la même manière avec l'idée d'un grand prêtre ou quelqu'un qui aurait une autorité absolue sur le domaine spirituel, qui nous dirait... le matin, quand il se lève, il décide qu'il faut changer de culte. On parle de J'ai le mot qui est en train de m'échapper. Non, ça ne vient pas. Mais dans des sectes, le dirigeant d'une secte, un gourou, merci. Un gourou qui se lève le matin, qui se dit « Tiens, j'ai envie de manger différent ce matin » et qui n'en fait qu'à sa tête. On a aussi là, il y a un peu ce côté, le gourou, d'une certaine manière, dans une secte, c'est le roi, le grand prêtre et tout, pour les personnes qui sont concernées. Et en général, c'est pas bon. Et on voit ces images qui sont associées et qui sont négatives. Et donc, on peut se dire « Mais pourquoi ici est-ce que Dieu demande à Zacharie de faire cette chose et de dire mets une couronne de roi sur la tête du grand prêtre ? » On voit que l'Ancien Testament nous présente ça comme quelque chose de pas bon. Et dans l'Ancien Testament, et on en a parlé récemment, est-ce que certains d'entre vous vous souviennent d'un personnage qui est à la fois roi et prêtre ? Non ? Jésus, il est question de Jésus qui est roi et prêtre, et c'est effectivement la conclusion de ce qu'on voit ici. Mais on a parlé d'un certain Melchizedek dans le livre d'Hébreux, dont il était question, et qui était un personnage dont on avait parlé dans l'étude de la lettre aux Hébreux il y a quelques mois de ça, peut-être une année ou deux, ça passe vite. Mais il y avait cette idée que c'était peut-être là aussi ce Melchizedek, cet ordre de Melchizedek dont il est question dans le livre d'Hébreux, dont il est question dans Genèse et dans un des psaumes, parce que c'était peut-être une figure là aussi préincarnée, une sorte d'apparition de Jésus lui-même. Et c'est ce que pensent beaucoup de théologiens. Et on avait parlé, quand on avait regardé la lettre aux Hébreux, on avait parlé d'un passage où Jésus, dans Jean 8, parlant d'Abraham, dans Jean 8, si vous voulez, on peut s'y tourner. Jean 8, verset 56. Jésus dit « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et on avait parlé dans l'étude de la lettre aux Hébreux du fait que peut-être Abraham, dans Genèse 14, il est question d'une rencontre entre Abraham et ce personnage Melchizedek, qui était roi et prêtre à la fois. Et on avait parlé du fait que peut-être que ce à quoi Jésus fait allusion ici, c'est l'idée que, en fait, ce personnage Melchizedek, c'était une sorte de rencontre entre Abraham et Jésus sous une forme préincarnée. Et donc ce personnage, Melchizedek, cumulait ces deux choses, prêtre et roi en même temps. Et la lettre aux Hébreux nous explique, et tout le débat de cette lettre, toute la présentation initiale, c'est de dire que Jésus est supérieur aux prêtres, aux prophètes, et il est question de l'idée qu'il est de l'ordre de Melchizedek, qu'il est dans une autre catégorie, il a un autre statut. Et donc, ce passage est vraiment clairement, surtout quand si on lit les passages dans Hébreux, notamment dans Hébreux 7, ce passage nous parle et est une annonce prophétique de la venue de Jésus. Quand il dit, donc c'est cette image, c'est dire voilà Josué, met une couronne de roi sur sa tête, et ensuite, verset 12, tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est Germe, il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. C'est une annonce de Jésus. On avait parlé déjà de ce mot « germe ». Il en était question dans Zacharie 3, et on avait parlé, c'était un mot qui était utilisé pour parler aussi du Messie, de la venue du Messie dans Ésaïe et dans Jérémie. Et c'est quelque chose, l'image du fruit ou de la vie qui grandit, la vie naissante. Et c'est la même image que Jésus utilise dans Jean 15, l'idée du cep et du sarment, que nous devons demeurer en lui, que c'est lui en quelque sorte la racine, la plante qui grandit, et que nous on est les branches et on reçoit la vie à travers cette base. Ici il continue donc ce germe, le nom est germe et il germera à sa place. Et ici quand il dit il germera à sa place, ça peut être traduit par la vie germera là où il est, ou la vie germera sous ses pas. Et on sait que c'est cette vie que Jésus amène, cette vie spirituelle, cette vie éternelle que seul Jésus pouvait permettre. Il construira le temple de l'Éternel. Ici, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de construire un temple. Et puis il dit non, il y en a un autre qui va venir et qui va construire un temple. Et on peut penser à deux temples dans le futur, deux accomplissements par rapport à cette chose-là. Paul parle de l'Église, nous, comme étant les pierres vivantes du temple que Jésus construit, son corps, dans Éphésiens 2 ou dans 1 Pierre. Mais il est aussi question de Jésus qui va venir régner pendant 1000 ans sur la terre, pendant le millénium. Ça fait le lien avec le verset 15. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a là aussi, avec les prophéties, parfois on a cette impression d'accomplissement. On ne sait pas. Dieu présente des choses en disant ces choses vont arriver, mais il ne donne pas la chronologie. Jésus nous dit je vais revenir, mais vous ne savez pas quand. C'est difficile, mais c'est important d'y réfléchir, de voir cette idée, parce qu'on peut parfois se dire mais. Quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Et un petit peu il revient pas encore. Je vais attendre un peu. Je vais aller faire mon truc. Et les Juifs, surtout ici, qui reconstruisaient, qui disaient Seigneur, quand est-ce qu'on va? On attend le Messie. On attend que tu établisses ton royaume. Quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que ça va arriver? Et nous, en tant qu'humains, on peut se lasser, on peut arriver à aller se dire, mais ça vient pas. Et d'une certaine manière, ici, c'est un peu comme s'il retournait la chose et il dit, non, la chose va arriver. Ce que je veux, c'est que vous soyez prêts quand ça arrive. Que vous soyez prêts pour que ça arrive, pour que ça puisse arriver. Et pour nous, de regarder ces choses et de nous dire Jésus est roi et prêtre, nous on a en plus le bénéfice du recul avec le fait que nous avons la Bible, nous avons l'histoire de Jésus, nous avons l'Esprit Saint, mais on peut regarder les choses, on peut regarder nos vies, on peut regarder ce qui se passe dans notre Église, on peut regarder ce qui se passe dans le monde, on peut regarder la politique, on peut regarder les choses qui se passent et on peut voir un chaos. On n'est pas les plus à plaindre, je pense, dans l'histoire de l'homme, mais on peut voir ces choses et être pris là-dedans et avoir un peu un doute vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, je pense, Jésus veut me dire, sur ça j'en suis sûr, est-ce que je suis vraiment prêt à ce qu'il prenne le contrôle de ma vie? Est-ce que je vis comme ça? Est-ce que je suis prêt à ces choses que j'espère voir arriver? Est-ce que qui je suis et est-ce que Dieu veut que ce soit? Et c'est ça la question. On peut se pitoyer ou s'atermoyer sur le fait qu'on n'a pas de... On se dit, ouais, l'Église, c'est petit, là, il y a de la persécution. Et peut-être on se dit, mais Dieu, tu as dit dans ta parole, tu vas gagner, tu vas avoir la victoire. Et ces choses sont vraies, elles vont arriver. Et la question, c'est en attendant, maintenant, comment est-ce que nous vivons? Et pour nous, en plus, c'est toute une autre étude, mais si on regarde les annonces et les choses que Jésus a dites lui-même sur le royaume de Dieu, il a dit « le royaume de Dieu est là ». Il est là. Et nous, on peut regarder, et les Juifs regardent encore, cherchent encore la venue du Messie, cherchent encore cette arrivée du royaume de Dieu. Et Jésus nous a dit il y a 2000 ans déjà que c'était déjà là, que c'est en place et que Jésus est roi et prêtre, il règne, il domine, et pour en faire partie, c'est une question de comment nous réagissons vis-à-vis de Jésus, comment nous vivons. Si certains d'entre nous ne croient pas en Jésus, Dieu vous dit, si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, vous devez croire en Jésus et lui donner votre vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, on se pose la question, est-ce que Jésus est roi sur ma vie? Est-ce qu'il est le prêtre dans ma vie? Et est-ce que je cherche au jour le jour à le vivre? Et c'était intéressant ce que je vous disais avec les ados, de s'arrêter, de se dire, mais quelqu'un qui, si on se remet cette scène et puis on installe un trône là avec un roi, est-ce que nos comportements seraient différents dans notre vie chrétienne? Moi, malheureusement, je dois avouer que c'est souvent le cas, oui. Je me comporterais différemment si Jésus était assis ici avec des gardes en roi. Et je veux grandir et plus comprendre et vivre avec cette réalité, parce que c'est une réalité spirituelle qu'on attend encore comme un accomplissement réel sur cette terre et qui va venir, mais qui est déjà là. J'ai regardé parce que ça m'avait pas fait penser. En 2015, le 1er novembre 2015, j'avais enseigné sur 1 Pierre 1 et j'avais parlé du royaume de Dieu et de notre investissement et l'idée est-ce qu'on investit ici sur terre ou est-ce qu'on investit dans le royaume de Dieu. Et pour moi aussi, ça vient et ça me parle. Si Jésus est vraiment roi, si Jésus est vraiment le prêtre dans ma vie, je vais investir là-dedans. Si mon intérêt est dans le royaume de Dieu, comment est-ce que j'investis là-dedans? Comment est-ce que je passe mon temps? Comment est-ce que je réfléchis? C'est une réalité qui doit et qui, si elle affecte vraiment notre manière de penser, va affecter notre manière de vivre. Et pour finir dans cette vision, on termine avec cette idée du temple qui est construit et de ce prêtre et ce roi qui règne. Et c'est quelque chose de magnifique parce que il y a une idée de le monde est en guerre contre Dieu. Nous, avant de venir à Jésus, nous sommes opposés à Dieu, nous sommes en guerre avec Dieu. Mais maintenant, grâce à Jésus, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Nous pouvons être en paix, nous pouvons faire partie de ce royaume, être là, être au milieu des réjouissances, participer à la construction du temple de l'Église. C'est peut-être de nous dont il est question quand il dit « Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel ». C'est beau de se dire qu'il y a peut-être des versets comme ça qui parlent de nous, entre autres personnes, mais concrètement de nous. Et pour le dernier mot, Jésus, ici le mot qui est utilisé, on voit au verset 12, il dit « voici un homme ». Et il y a un parallèle qui est là aussi incroyable quand on fait les parallèles dans la Bible, quand on regarde les différents passages. Dans Jean 19,5, Pilate, avant de crucifier Jésus, présente Jésus et dit « voici l'homme ». C'est tellement beau les parallèles et les choses, et on peut pas nier ces choses. Et nous, on a cette chance de connaître Jésus. Vivons en pensant voici l'homme, voici le roi, il est là, il est parmi nous. Prions. Jésus, merci pour cette parole. Merci pour Zacharie, merci pour ses prophéties. Merci de nous parler à chacun. Aide-nous à vivre comme de vrais citoyens de ton royaume, Seigneur. Aide-nous à comprendre que tu es roi et prêtre, que tu cumules tous les pouvoirs de manière parfaite et que nous pouvons nous soumettre à toi. Merci pour la paix que tu as amenée, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Aide-nous à l'annoncer et à le partager autour de nous, Seigneur, à t'obéir. Merci pour cette famille, ce temple que nous sommes en toi. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Amen.